Elle est en place. C'est la poudre.
Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat.
Tiens, on a découpé une femme.
I am a feminist.
Je vous obsède avec une constance.
Je ne me suis pas conduit d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist.
C'est enfermant pour tout le monde.
Le droit de se regarder en face, le droit de se ramasser la gueule.
Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas de temps qu'elle marque.
Bienvenue.
Son épaule entre subjectivité et révolution.
Boum. Poudre.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Mam Fatou Niang.
J'aime bien la métaphore du travail de fourmi et aussi avoir cette humilité de voir les choses dans une temporalité très très longue. Et lorsqu'on a ça, ça permet d'une, de ne pas céder au découragement et de deux, de voir où est-ce qu'il y a des choses qui cèdent. Et moi, par exemple, en tant que professeur, en tant qu'universitaire, là où on gagne du terrain, je le vois.
Je vous écris d'un lendemain de manif. Et comme souvent ces derniers temps, d'un lieu pile sur la brèche entre l'espoir et la colère. On était 500 000 dans les rues de France ce samedi 28 novembre. Oui, on était 500 000 et me gonflez pas avec les chiffres de la préfecture de police qui est précisément l'entité contre laquelle on manifestait. Donc on était 500 000, flippés du Covid, flippés du gaz lacrymo. Et pourtant, on était là, on a bravé tout ça et on l'a fait dans la joie. Il y avait tout le monde. Les coloreuses, les syndicats, les sans-papiers, les Marocains, les sorcières, les Algériens, les journalistes, les jeunes, les vieux, les partis, les assos. Jamais vu assemblées aussi diverses, aussi joyeuses. Et puis le lendemain, dans les journaux, de notre belle et grande manif, presque pas un mot. Dans le cortège, la banderole portant les noms de toutes les victimes de violences policières faisait 8 mètres de long. On a des vidéos. On en a une par jour ces derniers temps. Pour citer Assa Traoré, je comprends même pas qu'il y ait débat. Et pourtant, il y a débat. C'est fou, mais il y a débat. Pour reprendre espoir, je vous conseille cet épisode enregistré sur Zoom un soir de confinement. Le son n'est pas génial, désolé, mais la détermination confiante de mon invité irradie dans tout notre échange. Et ça fait du bien.
Ça y est, c'est parti. On est en direct sur la page du Carreau du Temple, sur la page de la poudre.
Avec Mam Fatou Niang, on a parlé de république, de backlash et d'intersectionnalité.
Merci. Merci, merci Lorraine. Et ça me fait vraiment chaud au cœur de voir toutes ces petites mains dans le chat.
Et je voulais que tu aies droit à ton entrée, toi aussi.
Merci.
Bon, j'avais dit qu'on se vouvoierait, mais j'ai déjà perdu ma résolution au bout d'une phrase, donc on ne va pas essayer. Mam Fatou Niang, tu es chercheuse et maîtresse de conférences en littérature française et francophone à l'université de Carnegie Mellon à Pittsburgh, en Pennsylvanie, aux États-Unis, où tu enseignes depuis 2012 et où tu vis aussi depuis 2006, je crois. Tu es également l'autrice d'un livre intitulé « Identité française, banlieue, féminisme et universalisme » paru l'année dernière, qui éclaire sacrément bien l'époque qu'on vit aujourd'hui. Tu es également la co-réalisatrice avec Cathy Nissen d'un documentaire intitulé « Marianne Noire » paru en 2016 sur les parcours de femmes afropéennes, pour reprendre un terme forgé par les Nora Miano, mais qui, je crois, va bien à tes Marianne. Voilà, donc on devait normalement se voir en chair et en os, mais le confinement en a décidé autrement. On va faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Je te remercie vraiment d'être là ce soir, Mam.
Mais merci pour cette invitation et comme tu dis, ben voilà, on va faire avec ce qu'on a, on va faire avec ce que la virtualité nous donne et recréer du commun, recréer du dialogue ici.
Quand je t'ai soumis le titre de la conférence de ce soir, « Penser l'intersectionnalité », tu as tout de suite accepté. Pourquoi cela te semble important en cette période de se ressaisir de cette notion ?
Moi, je pense que c'est parce que c'est une notion qui est extrêmement utilisée, qui est extrêmement galvaudée. Et on en parlera aujourd'hui. On parlera de l'intersectionnalité telle que mise en mot par la juriste afro-américaine Kimberlé Crenshaw à la fin des années 80. Mais moi, ce qui m'intéresse véritablement dans le cadre de notre échange, et c'est ce qui m'a plu quand tu m'as proposé ce thème, c'est de rester dans l'esprit du titre. Penser l'intersectionnalité, donc de le penser à partir de notre local, depuis la France, réfléchir à la manière dont le terme arrive en France, à la manière dont il est déployé en ce moment comme épouvantail anti-républicain, et je pense ici aux récentes sorties de Blanquer, d'autres politiques, et aux diverses charges qui sont menées contre le terme par une coalition assez élargie qui va de la gauche à notre extrême droite ici en France. Pensez également les mythes qui se nichent dans la compréhension de ce concept. Et finalement, et pour moi, c'est une chose qui est absolument centrale dans mes travaux depuis à peu près 2 ans, voir comment ce concept, dès lors que nous l'ancrons en France, dans son histoire française, dans son historicité française, il nous permet de répondre au temps, au tsunami que nous vivons actuellement, et de répondre surtout à ce qui, pour moi, est l'une des crises majeures de notre temps, qui est la crise de sens qui accompagne le délitement de la République, le délitement de la démocratie, et comme je disais, ce galvaudage de termes tels que universalisme, citoyenneté, égalité, qui sont brandis à tout va. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment très important de me saisir de ce concept-là, s'éloigner des poncifs, s'éloigner des mantras creux, décortiquer les accusations d'importation, les accusations en terrorisme intellectuel, et réfléchir à la manière dont l'indigénisation, la francisation de ce concept répond à des besoins brûlants de notre temps.
Mam, à l'instant, tu parlais de cette diabolisation de la pensée intersectionnelle, même, je dirais même des sciences sociales en général. Alors, elle émane effectivement des instances gouvernementales. On l'a entendu dans la bouche d'Emmanuel Macron en personne au mois de juin, beaucoup plus récemment dans la bouche de Blanquer. Mais tout récemment encore, il y a une tribune qui a été signée par une centaine d'universitaires qui est parue dans Le Monde fin octobre. Et j'aimerais bien en lire un petit passage, juste pour qu'on situe bien la façon dont nos champs, enfin ton champ de recherche et celui qui est celui de nos luttes communes est décrit. Alors que le port du voile, parmi d'autres symptômes, se multiplie ces dernières années, il serait temps de nommer les choses et de prendre conscience de la responsabilité dans la situation actuelle d'idéologies qui ont pris naissance et se diffusent dans l'université et au-delà. L'importation des idéologies communautaristes anglo-saxonnes, le conformisme intellectuel, la peur et le politiquement correct sont une véritable menace pour nos universités. Enfin, tout est là. On a, en deux phrases, on a le voile, l'idéologie, les États-Unis. Et c'est vraiment cette idée d'importation que je voulais questionner avec toi.
Alors, l'intersectionnalité, très vite, c'est entre 89 et 91, il y a une juriste afro-américaine, Kimberlé Crenshaw, qui met en lumière les angles morts dans la prise en compte juridique des sujétions qui écrasaient les femmes issues des minorités, et surtout des femmes noires. Et donc, en 91, il y a le procès d'Annie Tahil, et Crenshaw va se rendre compte en fait qu'il y a une espèce de mécanisme qui va faire que les mouvements féministes d'un côté et les mouvements antiracistes de l'autre vont se déchirer entre la défense de Annie Tahil qui accuse le juge Clarence Thomas d'agression sexuelle et de l'autre la défense de Clarence Thomas qui est une star du barreau, deuxième noire nominée à la Cour suprême que l'on ne doit pas jeter en pâture à l'Amérique blanche et raciste. Et donc elle va s'interroger sur la difficulté de croiser des luttes qui sont mises en opposition alors qu'elles ont pour but premier d'atteindre une société plus juste et que dans ces reniements-là, c'était des femmes noires qui vont se retrouver au bas de l'échelle, qui vont être éternelles sacrifiées. Donc Crenshaw, aux États-Unis, va mettre un mot sur cette articulation, cette rencontre donc, des enjeux de race, de classe, de genre, de validisme, d'âge, de location géographique, etc. Mais si elle met un mot sur l'intersectionnalité, elle n'invente pas l'intersectionnalité. Cette pensée a été déclinée même aux États-Unis bien avant elle par des personnes comme Sojourner Truth, les femmes du combat et collectif, etc. Ça, c'est pour les États-Unis. déconstruire l'idée que les femmes sont un bloc homogène et analyser la manière dont leur émancipation doit se penser en même temps que le combat pour les droits civiques, pour une société anticapitaliste, pour les droits des ouvriers, etc. Mais l'intersectionnalité, ce n'est pas juste ce mot qui a été inventé. L'intersectionnalité, c'est une manière de vivre, c'est une manière de faire, et il y a de l'intersectionnalité en France. Et donc, moi, je m'intéresse beaucoup, pour répondre à ta question, aux écueils qui sont placés devant ce mot. Le fait de dire, un, que c'est un concept qui est importé, il n'y a rien de plus faux, et deux, de dire qu'il est inopérant, voire dangereux dans un cadre républicain. Donc, on va commencer avec l'importation. Il y a eu donc cette tribune, je pense aussi à Blanquer qui a parlé donc d'une matrice intellectuelle qui veut essentialiser les communautés et qui porte une responsabilité dans le terreau fondamentaliste qui frappe la France. Et pour moi, cette phrase, elle est absolument ridicule quand on pense, un, aux contributions anciennes de théoriciens français sur ces questions, et que, deux, comme je le dis, sans mettre le mot intersectionnalité sur ce qu'elle faisait, des femmes françaises dans l'Hexagone vont faire de l'intersectionnalité, le vivre. Je pense à Suzanne Roussy-Césaire, Jeanne Leroux, Eugénie Eboué, Annette Bader-Neuville. Je suis allée aux États-Unis, mais je n'ai pas appris l'intersectionnalité aux États-Unis. Je suis partie en tant que personne vivant déjà dans une intersectionnalité. Et je trouve qu'il est assez triste sur ce concept de l'importation qu'un pays comme la France, qui se dit un chantre de l'ouverture, qu'on voit comme ça un mouvement être rejeté en bloc sur la seule base de ses prétendues origines étrangères. L'intersectionnalité n'a pas de pays ou de nationalité. On en fait à Dakar, on en fait à Djibouti, on en fait à Sydney. On y réfléchit dans les couloirs des universités allemandes, sud-africaines, américaines, mais il y a une tradition française, il y a une pensée française, une expérience française de la question raciale, féministe, féminine et de l'imbrication des dominations. Mais moi, c'est vrai que oui, comme je le dis, c'est à l'université que je découvre Condé, Glissant, Fanon, Fabienne Canon, que je ne connaissais absolument pas après 2 ans de classe prépa et mes études ici. Et je doute, donc, quand j'entends ces accusations d'importation, ben j'ai envie de dire à ces collègues-là qui ont écrit cette tribune, j'ai envie de dire à Blanquer, j'ai envie de dire à Macron, de se renseigner sur les sœurs Nardal, de se renseigner sur Robert Orff, cette écrivaine guyanaise qui habitait à Paris au début des années 30, qui écrit et qui parle de l'expérience que c'est pour elle de venir de Cayenne, d'être une femme française, mais une femme noire à Paris. Écrivaine, et une femme, comme elle le dit, elle le disait de manière absolument extraordinaire, qui ne sera jamais une femme tout à fait comme les autres à Paris, parce que son âme occidentale est drapée dans ce qu'elle appelait une peau scandaleuse, cette tache écarlate que constitue la peau noire. Est-ce que Blanquer connaît les sœurs Leroux, Anne, Iva et Jeanne Leroux? En 1944, Jeanne, depuis la Martinique, crée l'Union des femmes de la Martinique. En réponse à l'UFF qui existait alors, l'UFF, c'est l'Union des femmes françaises. Et ce que Leroux se dit, c'est que l'UFF ne répondait qu'aux besoins spécifiques des femmes blanches de l'époque. Et cette action en 1944 est suivie en 1954 par Jeanne Martin-Cissé et Annette Bader-Neuville en Afrique occidentale qui vont créer l'UFS, par exemple, l'Union des femmes du Sénégal, parce que pour elles, la situation dans les colonies françaises occidentales, pour ces femmes françaises et noires, créait un paramètre de traitement inégalitaire qui n'était pas dans le viseur de leurs consorts de l'Union de l'UFF. Et juste pour terminer sur cette question d'importation que je trouve très très triste personnellement, moi j'ai envie de dire à Blanquer, à Macron, à toutes ces personnes, tous ces collègues qui ont écrit cette tribune, toutes ces personnes qui crient à l'importation et à l'assassinat de la France, de lire les travaux de Yala Kisukidi, de lire les travaux de Jacqueline Couty, d'Annette Joseph Gabriel, d'Audrey Célestine, de Maboula Soumaoro, de Sylviane Larcher, de Myriam Paris, de Jennifer Boitin, de Kaoutar Archi, de lire les romans de Aya Sissoko, de Dali Michatouré, de lire les romans de Tassadi Timache, d'Assia Djebar, de Fabienne Canor, de Marie Scondé. Je leur demande de regarder Bintou Dembélé ou Gerti Dambury monter sur scène et démêler avec leur corps, démêler avec leurs mots les chevaux de ces discriminations et les chevaux de l'intersectionnalité à la française. Et je ne peux pas tout citer ici, mais j'ai conscience que ces noms fleurent l'étranger, Larcher, Djebar, Canor, et qu'ils renvoient à des traits de visage ou des lieux qui fleurent bon l'ailleurs, mais il ne faut pas s'y tromper. Ce sont des histoires françaises, c'est une histoire de France.
Ce sont des histoires de Marianne. Enfin, on revient
à
cette histoire de Marianne.
Absolument, ce sont des histoires françaises. Et juste pour terminer sur ça, moi, c'est ces femmes qui m'habitent depuis 15 ans, depuis que je fais ce travail, ces femmes qui parlent, qui bougent, qui pensent, qui écrivent ce que c'est d'être et de grandir femme et noire, femme et musulmane, femme et arabe, femme et noire et musulmane, et voilée et pauvre, ou de banlieue, ou de petite ville de campagne, ce que c'est d'accompagner les parents au guichet des administrations et de voir les profs d'école vous condamner d'LCI parce que, ben, avec la famille que vous avez, comme l'écrit Aya Sissoko dans son roman de bas, ben, avec la famille que vous avez, ça va être compliqué. Et puis, comme Maboula le dit bien dans mon film Marianne Noire et dans son bouquin Le Triangle et l'Hexagone, qu'on ne croit toujours pas en vous au lycée, puis à la fac, puis après le CAPES, puis pendant le doctorat, puis après le doctorat, et quand on est maîtresse de conférence, ben, parce que Soumaoro, Sissoko, Nian, ben, ça ne rime pas avec Sorbonne. Et moi, toutes ces personnes, voilà, je les invite à entendre toutes ces voix-là qui disent en français, depuis la France, ce que c'est d'être à l'intersection de tellement de différences qu'on ne pourra jamais vous voir comme étant au centre, comme étant du centre, comme appartenant au groupe national.
Enfin, l'énumération m'a donné énormément d'émotions. Merci beaucoup d'avoir mentionné le travail et les œuvres de toutes ces chercheuses, romancières, dramaturges. Je pense qu'on l'écrira et on la publiera pour que chacun puisse aller y piocher.
J'espère.
Alors, il y a une autre attaque qui est en train de s'additionner à cette diabolisation des sciences sociales. C'est la loi LPPR, la fameuse, qui a été votée à l'Assemblée mardi et qui passera au Sénat le 30 novembre. Cette loi contient plusieurs volets particulièrement inquiétants pour la liberté académique, notamment l'interdiction sous peine d'amende d'occuper les amphithéâtres, ce qui de fait interdit tout simplement les mouvements sociaux à l'université, hein, au pays de la Sorbonne et de mai 68. Plusieurs profs et collectifs ont appelé à une protestation en ligne, même si tu n'es pas rattaché à l'université française directement. Est-ce que toi, cette loi t'inquiète également ?
Mais absolument, j'ai signé plusieurs pétitions, je ne travaille pas dans une université française, mais je travaille sur la France. Et cette loi touche des personnes qui me sont chères. Cette loi va toucher notre capacité à nous penser. Cette loi va toucher notre capacité à penser la France dans sa pluralité. Et je suis du monde universitaire. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est j'essaie d'analyser ce qu'il y a derrière ces propos, derrière les propos de Macron, derrière les propos de Blanquer, et ce qu'il y a derrière des initiatives plus larges du gouvernement, comme la loi LPPR, donc ce projet de loi de programmation de la recherche 2021-2030, et surtout l'ajout de cette mention, que moi j'ai trouvé absolument lunaire, que les travaux devraient s'exercer dans, je cite, le respect des valeurs de la République.
Les valeurs républicaines. Mais alors je t'avoue que quand j'ai relu attentivement l'article du Monde, je ne l'ai pas retrouvé, cette mention-là, et pourtant je l'ai entendue moi aussi, mais ça c'est complètement délirant, enfin c'est absolument inimaginable en fait.
Non mais absolument, et donc de questionner mais qu'est-ce que les valeurs, qu'est-ce que sont ces valeurs, et surtout voir donc dans cette mise en accusation, le fait de pointer du doigt une dérive des sciences sociales qui serait gangrénée par le racialisme, l'intersectionnalité, la haine des blancs de la République, et c'est une mise au pas. Moi je trouve que c'est une mise au pas, c'est une attaque absolument terrible contre les libertés académiques, mais je veux dire qu'avant de concerner aussi largement le monde académique, ces attaques, elles ont été très longtemps dirigées contre des chercheurs racisés, sans qu'on voit un engagement aussi significatif.
Bah quand j'évoquais le fait que toi, comme Maboula, ayez dû aller étudier, faire votre recherche outre-Atlantique, je pensais aussi un petit peu à ça, c'est-à-dire qu'on vous a aussi tellement pas invité à pouvoir explorer la recherche que vous vouliez explorer en France que vous n'avez pas vraiment eu le choix aussi, quoi.
Bah absolument. Moi, en 2006, je sortais de prépa, j'étais dans une voie extrêmement classique, et il y a un moment, il se pose toutes ces questions de vous qu'est-ce que c'est que le canon, comment est-ce qu'on peut penser le canon, et surtout une question qui à l'époque, moi on m'a dit, n'était absolument pas scientifique, n'était pas une chose qui n'était pas pensable, se penser comme sujet épistémologique, se penser comme sujet de recherche, alors que voilà, nous on sait qu'on est dans cette espèce de froideur scientifique où il faut être le plus éloigné possible de son sujet, et je sais que voilà, moi j'arrive en 2006 pour un semestre d'échange à l'Université Brown. Et on me dit, t'es la petite française, tu vas lire Fanon. Et je dis, mais qui, quoi, je ne le connaissais pas. Donc voilà comment je découvre Fanon. Et donc, juste pour revenir sur cette expérience-là, moi, ce que mon travail est celui de bon nombre de mes consoeurs et confrères dans les sciences sociales fait, c'est de questionner ce qui nous est présenté comme du naturalisé, ce qui nous est présenté comme du normalisé, le fait de dire bah, les valeurs républicaines, c'est ça et c'est pas autre chose. La France, c'est ça, ça, ça et ça, parce que c'est comme si et c'est pas comme ça. Et là, et par là, effacer jusqu'au besoin de vouloir mettre en lumière des éléments qui ne doivent pas être dans le viseur de la République, et comme par exemple exiger que l'intersectionnalité demeure un impensé, qu'on ne doit pas y réfléchir parce que la République s'occupe du concept de la classe, le concept de la race n'existe pas. À partir de là, voilà, l'intersectionnalité doit être impensée. Et nous, ce que nous essayons de faire dans nos analyses, c'est de repousser la tendance qui peut être jusque dans nos propres corps de métier. On l'a vu avec cette tribune de nos collègues, donc cette tendance à produire ce que Sylviane Larcher appelle un nationalisme épistémique, c'est-à-dire la production de savoir qui soit ethnocentré, nationaliste, qui passe sous silence, qui efface ou dévalorise certaines notions. Et ici, je pense, comme je l'ai dit, surtout à la dévalorisation ou à la mise sous silence de la notion de la catégorie race, qui, je le rappelle, on le sait, mais c'est bon de le rappeler, n'est pas prise dans son sens biologique qui n'existe pas, mais dans son sens social et dans son sens, donc dans la manière dont elle crée des catégories sociales.
Qui permet de penser le racisme, ce qui peut être utile. Moi, je me demandais, Mam, si tu savais où était passé juin. Moi, je me rappelle des révolutions antiracistes et de l'excitation et de l'exaltation et de l'espoir que j'avais pu ressentir au mois de juin quand il y avait cette espèce d'accélération incroyable, les statues coloniales déboulonnées, les 3 fois 20 000 personnes autour d'Assa Traoré. Pas de justice, pas de paix. C'était tellement évident, tellement simple. Toi aussi, tu y croyais, tu as écrit. Je n'ai jamais connu l'effervescence qui s'est emparée de la France dans le sillage de l'affaire George Floyd. Dans mon entourage, de nombreux journalistes, chercheurs, activistes et artistes partagent ce sentiment d'inédit, cette impression d'assister à un moment historique. Dans un débat public imposé, la France se retrouve 8 semaines durant face à une série d'interrogations auxquelles elle ne peut plus échapper. Il est où cet état d'esprit maintenant, 6 mois après? Ça paraît presque comme si on avait rêvé.
Il est toujours là. Il est toujours là. Je suis d'une nature extrêmement optimiste. Il y a une chose que tu as dite, je pense que c'était il y a 2-3 semaines, qui, pour moi, résumait beaucoup la situation qu'on a aujourd'hui, parce que j'entends beaucoup de gens autour de moi dire voilà, la France se venge du fait qu'on ait imposé ce débat racial qui est devenu, qui avait été inévitable, incontournable au mois de mai, de juin, qui a été, voilà, qui a dû remonter jusqu'aux plus hautes sphères de l'État, toutes ces conversations autour des statuts, de la question raciale, des violences policières, etc. Et donc, que la France se vengeait par ce backlash, donc le système revenait pour écraser tout ce soulèvement de manière encore plus forte. Et tu avais dit une chose que j'avais trouvée magnifique: non, ce n'est pas ça le backlash, c'est nous. C'est nous. Donc, quand on comprend comme ça, on se dit qu'il y a quelque chose qui a bougé. Et à partir de là, moi, j'aime bien la métaphore du travail de fourmi, avoir cette humilité de voir les choses dans une temporalité très, très longue. Et lorsqu'on a ça, ça permet d'une, de ne pas céder au découragement, et de deux, de voir où est-ce que il y a des choses qui cèdent. Et moi, par exemple, en tant que professeur, en tant qu'universitaire, là où on gagne du terrain, je le vois dans le fait que en 2006, j'ai dû partir parce que je ne trouvais personne avec qui travailler. Je voulais travailler sur le rire noir dans l'espace de l'Atlantique noir, je ne trouvais personne. Et aujourd'hui, j'ai une dizaine d'étudiantes de master et de doctorat françaises qui travaillent avec moi, et elles ne sont pas aux États-Unis, elles ne sont pas au Canada, elles ne sont pas à Londres, elles sont en France. Donc voilà, c'est sur des petites choses comme ça qu'on se rend compte que les choses changent. Et les choses changent aussi parce qu'on se rend compte que nous accédons de moins en moins et nous arrivons à montrer sur plusieurs échelles, que ce soit à l'échelle de la recherche scientifique, que ce soit dans la militance, que ce soit dans la production artistique. Et pour moi, c'est une chose qui est extrêmement importante, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, que nous ne sommes pas dans de l'importé, nous ne sommes pas dans de l'étranger, nous sommes dans des questions franco-françaises qui sont nés d'une histoire de France et qui vont répondre à des questions qui agitent la France aujourd'hui. Donc le fait de pouvoir avoir ces débats, même si c'est dans des conditions extrêmement difficiles, même si c'est des débats qui peuvent être biaisés, qui peuvent être dans des conditions où on a l'impression qu'on crie un peu comme ça dans le vide, le débat est là, les mots sont sortis et on sait, lorsqu'on parle de ces questions, que ce soit la question des féminismes ou la question raciale ou la question de l'intersectionnalité, à quel point le plus dur n'a pas été d'être attaqué, le plus dur a été d'être invisibilisé, le fait que la parole n'arrivait pas à sortir. Donc pour moi, l'attaque, c'est déjà quelque chose. Ça veut dire qu'on est au moins considéré, qu'il y a une sorte de... L'invisibilisation a été levée et pour moi, je le prends absolument comme une victoire. Donc l'esprit de mai est là, l'esprit de juin 2020 est là, on le porte et on ne bouge plus.
En tout cas, je suis extrêmement honorée que tu m'aies cité. C'est n'importe quoi, mais merci beaucoup.
Non, mais c'est ça. Et quand on le comprend comme ça, ça inverse la charge d'anxiété.
Ouais, je l'avais ressenti très profondément. Et je trouve que ça redonnait de la force aussi de se dire que voilà, ça poussait fort en face, mais on était la résistance. Et il y a aussi quelque chose, je trouve, de très important, justement, pour réancrer en France cette question de l'intersectionnalité et pour lutter contre cette espèce de mythologie de l'importation. C'est que toi, tu la penses vraiment dans un cadre français, cette notion. Et tu as notamment permis, tu m'as d'ailleurs beaucoup aidé à ça, de déconstruire cette espèce d'opposition qu'on mettrait entre intersectionnalité et universalisme, entre antiracisme et universalisme. Tu as notamment coécrit avec un confrère, Julien Suodo, une tribune qui s'appelle « Pour un universalisme antiraciste ». Et dans cette tribune, vous proposez, ton confrère et toi, une issue, une réconciliation. Et je trouve que c'est aussi une excellente réponse à celles et ceux qui voudraient taxer de séparatisme les personnes qui portent ces discours, parce qu'au contraire, on voit bien que non, l'objectif, c'est le rassemblement. Est-ce que tu veux bien m'expliquer comment cette réconciliation, tu l'envisages dans une certaine temporalité, en fait ?
Alors, avec Julien, ce qu'on disait, qui est un très, très bon ami, mon frère, mon collègue, ce qu'on dit, c'est très simple, c'est que l'antiracisme, il doit être universaliste, et l'universalisme est antiraciste. Et à partir de là, cette séparation qui est manichéenne d'avoir les bons d'un côté, les mauvais de l'autre, et même au cœur même du mouvement antiraciste, on a cette tendance à opposer d'un côté l'antiraciste, le bon antiraciste républicain avec des associations comme, je sais pas, la LICRA ou SOS Racisme, et les mauvais qui seraient alors affublés de tous les adjectifs indigénistes, etc. Et pour arriver à ça, en fait, dans mon travail, moi, je réfléchissais beaucoup à ce que Paul Gilroy appelle la mélancolie postcoloniale, c'est-à-dire la perte, le deuil qui saisit, alors pas actuellement, mais depuis un certain temps, l'Occident, cette confrontation entre ce que l'Occident pensait d'elle-même, ce qu'on pensait de soi, l'histoire que l'on a écrite de soi, ce qu'on pensait être et ce que l'on est véritablement. Et moi, je regarde la manière dont cette mélancolie, elle se traduit par des pulsions de destruction, donc destruction de soi, mais aussi destruction de corps comme le mien, qui ramène l'Occident à une réalité qu'elle essayait de fuir, donc qui ramène le miroir vers soi. Et j'ai beaucoup été inspirée au début de mes études doctorales par le travail de la théoricienne française franco-camerounaise Nathalie Etoké, qui est absolument célébrée aux États-Unis et dans les Caraïbes, et relativement peu lue en France, qui dans un ouvrage paru il y a 10 ans, qui s'appelait « Mélancolia africana », réfléchissait à la réponse à apporter à ce rouleau, qui a détruit les corps de nos mères et de nos pères, qui a voulu détruire, étouffer nos rêves et qui a pu détruire les corps de nos frères. Et comment penser la réconciliation? Et moi, ça a été un déclic pour moi. Et en fait, très vite, j'explique, Nathalie Etoké pense à la manière dont on doit dépasser les moments actuels de rencontres tragiques ou de mise en opposition de camps et penser une politique de la libération qui soit centrée autour de soi, autour de l'échange. Si tu as regardé Marianne Noir, c'est le principe de zone de confort dont la chorégraphe Bintou Dembélé parle magnifiquement dans le film. Et la mélancolia africana, nous dit Etoké, c'est une éthique de l'être, une éthique du devenir qui refuse absolument l'assignation. Et c'est un appel à chercher les failles, à cartographier les frontières, à cartographier les lignes de fuite, mais aussi les lignes de fragilité de la structure sociale qu'on localise, et c'est là que l'intersectionnalité nous aide, qu'on localise naturellement chez les membres du groupe les plus faibles et qui ont tendance à accumuler plusieurs différences ou plusieurs handicaps. Et elle nous dit enfin que la mélancolie africaine, c'est un appel à projet. Et c'est là que je fais la jonction avec mon travail, c'est un appel à projet pour trouver de nouveaux créateurs du nous, du bien commun, et pas seulement des utopies irréalisables, pas seulement des mythes, mais vraiment des nouvelles possibilités qui soient ancrées dans la réalisation d'un bien commun, donc d'une vraie res publica, d'une vraie république. Donc moi, dans mes pensées, dans mes réflexions sur l'universalisme et dans ce que j'ai créé avec Julien, nous pensons que cette coproduction, elle doit être nécessairement postcoloniale. Elle doit nécessairement prendre en compte toutes les voies qui sont nées de notre histoire. Et à mon sens, elle est l'une des voies les plus à même de répondre à la crise de sens que traverse la République aujourd'hui et des éléments comme la citoyenneté ou la démocratie qui lui sont associés. Et quand j'ancre l'intersectionnalité dans la manière dont l'antiracisme peut est naturellement un universalisme, ce n'est ni pour dresser des listes kilométriques de victimes ou d'oppression, ni pour faire des hagiographies complètement étincelantes de femmes badass, exceptionnelles. Non, pour moi, l'étude de ces imbrications, elle met en lumière des quotidiens qui, lorsqu'on les met bout à bout, elles complètent véritablement notre compréhension de l'universel. La République, et je vais terminer sur ça, et ses valeurs sont des concepts dont tout le monde se réclame aujourd'hui. Mais on le voit, des mobilisations de cet été dont tu parlais, aux travaux universitaires, aux multiples interventions de collectifs, de militants, d'artistes. On voit qu'il y a une pression sur les questions de race, de genre, de classe, de location géographique, etc., qui mettent la République face à ses promesses non tenues. Et il y a aujourd'hui, on le voit, une défiance absolument totale en France contre les politiques et les corps intermédiaires. Mais ce qu'on a vu, ces gens qui sont descendus dans la rue, montrent que cette défiance, elle ne touche pas le politique, dans le sens de police, dans le sens grec de police, la cité. Donc les gens qui sont dans la rue, qui ont le doigt sur le pouls de la vie, de la ville, et qui le sentent bouger parce que ce sont des gens qui vivent la quotidienneté de la ville. Et cette situation, aujourd'hui, elle se traduit par une demande croissante pour une vraie, ce que j'appelle une vraie démocratisation de l'universel. Il y a une volonté de revenir au sens de la res publica, ce concept qui trouve ses origines dans l'Antiquité et à cet avertissement de Platon qui disait que pour savoir comment bien régner, que la première question républicaine qu'on doit avoir, c'est quel est le meilleur régime politique. Et le disciple de Platon, Aristote, dit que le premier critère d'une bonne république, et ça il faut que nos gouvernants l'entendent, c'est la gouvernance pour le bien commun. Et qu'une bonne république, c'est un régime où on est tantôt gouvernant, tantôt gouverné. Et cette question, lorsqu'on y pense bien, donc lorsqu'on revient à la base de la République, même avant la Révolution, ça nous pousse à voir le projet républicain comme quelque chose qui est toujours un projet inachevé, quelque chose qui doit être une réflexion sans cesse en cours pour s'adapter au bien commun, mais au bien commun de son temps. Aujourd'hui, en 2020, on ne peut plus réfléchir par rapport à quelque chose qui a été posé, je ne sais pas, par Napoléon ou par la révolution de 1792. Et donc, pour moi, ça éclaire la crise démocratique que nous traversons aujourd'hui à travers cette confiscation de la démocratie qui, pour Rousseau, est consubstantielle à la République. Donc, la confiscation de la démocratie, demos kratos, le pouvoir du peuple, par une caste qui refuse de passer le relais, qui refuse l'adage selon lequel res publica est res populi, le gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple, et les gens qui le vivent, qui vivent la police, qui vivent la cité. Et donc pour moi, je trouve que le travail que nous faisons, que ce soit dans l'engagement antiraciste ou même dans des concepts un peu plus poussés comme l'intersectionnalité, c'est qu'on va interroger la construction, on va interroger la préservation du bien commun. Et sur des sujets comme l'universalisme, par exemple, mettre en lumière la manière dont l'universalisme n'a pas toujours été un bien commun, mais il a souvent été le bien de quelques-uns. Et dans l'histoire de France, ça a été l'universalisme a été un horizon que la République n'a pas toujours atteint. Ça a été un idéal, comme je disais, qui a été souvent matiné d'exception, l'accès tardif des femmes aux droits, le code de l'indigénat, les travaux forcés dans les colonies, Vichy. Et aujourd'hui, il y a une génération, et c'est pour ça moi je dis que nous sommes le backlash, c'est pour ça que je dis que l'esprit de mai est encore là, l'esprit de juin est encore là. Il y a une génération qui, dans les universités, dans la rue, dans les podcasts, dans son quotidien, refuse de vivre sous le joug d'un mythe invisibilisant, silencieux. Et donc, bien loin de la menace séparatiste qui est brandie par le gouvernement, et bien loin de casser la République en deux, comme on nous a dit, de la servir sur un plateau aux terroristes, ce qu'on est en train de faire, c'est de vraiment réfléchir à une nouvelle utopie politique et un vrai projet de société qui englobe le maximum de voix possibles.
Je voulais quand même qu'on passe un moment sur ce terrain qui est ton terrain de recherche sociologique, qui est la banlieue. C'est un endroit que tu explores beaucoup dans ton livre, notamment le quartier de la Grande Borne, qui est un quartier que tu connais bien, où tu as été rencontré pendant 2 ans, la jeunesse de la Grande Borne entre 2014 et 2015. Tu les as rencontrés à une période qui était marquée aussi par une série d'attentats terroristes, notamment les attentats contre la rédaction de Charlie Hebdo. Et tu recenses dans un article, dans un texte, les réponses que ces jeunes t'ont apportées, qui sont, je trouve, infiniment plus fines, plus subtiles que tous ces discours binaires qu'on trouve aujourd'hui entre l'articulation entre la République et le terrorisme. Moi, je me suis dit que c'était vraiment, en fait, encore une fois, on était dans le terrain de l'intersectionnalité dans ces zones-là. T'as vraiment tout à l'heure parlé des marges et à quel point les marges renseignent sur le centre. Est-ce que c'est une démarche identique qui s'accomplit pour toi en tant que chercheuse quand tu vas voir la banlieue pour comprendre ce qui se passe au centre?
Absolument, et je pense que ça rejoint dans mon livre, je termine avec un entretien avec la cinéaste Alice Diop, et elle me dit, moi j'essaie de faire avec ma caméra ce que tu fais avec ton ordinateur, avec ma caméra aussi, ou avec mon stylo, c'est de se dire, il y a 25 ans, j'étais intervenante pour la Croix-Rouge dans un quartier dans le quartier des Minguettes, à Lyon. Et la réalité, le quotidien. Moi, je suis vraiment très intéressée par cette idée du quotidien, comment les gens vivent, comment voilà, avoir le doigt sur le pouls de la ville, pas telle qu'elle est imaginée ou rêvée, mais telle qu'elle est vécue. Et le quotidien que je voyais, alors je ne fais pas de l'angélisme, mais le quotidien de solidarité, le quotidien de coopération et le quotidien aussi de problèmes que je voyais dans ces espaces-là étaient tellement opposés à l'image qu'on en donnait lorsqu'on en parlait, que ce soit dans les médias ou dans les journaux. Et donc moi, je me suis intéressée, j'ai commencé à m'intéresser à ces espaces et me dire, mais comment est-ce qu'on crée de l'unité? Comment est-ce qu'on crée du nous? Il y a un moment, pour créer du nous, il va falloir mettre un miroir et créer un contre-exemple. Et je vais me rendre compte que la banlieue, ça va être un endroit qui va être le fruit de planification politique, le fruit de planification urbaine, mais aussi le fruit d'une construction mentale. Et cette construction mentale, dans mon livre, je vais remonter 30 ans de ce que j'appelle 30 ans de construction mentale de la banlieue. Comment on passe des émeutes, des minguettes dans les années 80, avoir un problème local. Alors, on va expliquer les émeutes des Minguettes par le délitement social, le chômage dans le bassin de Vénissieux, le bassin du Rhône, à un problème national dans les années 2005 avec les émeutes, qu'on va expliquer, voilà, cette contamination de toute la France, à maintenant un endroit de 2015, depuis les attentats de 2015, qui va prendre comme ça une échelle internationale en lien avec le fondamentalisme. Et donc, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de regarder comment cet endroit, en fait, n'est jamais regardé dans sa normalité, n'est jamais regardé par rapport à la voix des habitants, n'est jamais regardé par rapport au quotidien des habitants, et qu'il est toujours parlé. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on tend le micro aux habitants et qu'on leur laisse parler eux-mêmes de leur espace? Donc, c'est quelque chose que j'ai fait pour montrer comment on crée de la marginalité, comment on crée la marge, mais aussi lorsqu'on veut vraiment repenser notre société comme une société inclusive, comment des solutions peuvent venir de ces marges-là. Et ce article dont tu parles, qui était un article que j'avais fait pour une revue américaine en 2016, après une rencontre avec des jeunes de la Grande Borne dans la semaine qui a suivi les attentats de Charlie Hebdo. Donc ce quartier qui était devenu pour la presse française et pour la presse internationale le quartier qui avait vu naître l'un des terrorismes. Et donc, juste pour terminer, on avait dépeint ces jeunes comme des terroristes, des pousses de terroristes, complètement anti-français. Donc, tout le vocabulaire, soit militaire, soit de la maladie qui était utilisée pour parler de ces jeunes, c'était un cancer, c'était la fièvre, les troubles, le diabète et ces membres morts, ces membres malades qui… qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a un diabète? Il faut couper le membre malade, sinon il peut contaminer le reste de la société. Et donc, aller parler à ces jeunes-là qu'on avait décrit, on l'a revu encore il y a quelques semaines après les hommages à notre collègue Samuel Paty, qu'on avait décrit comme l'anti-France, des jeunes qui n'avaient pas voulu respecter la minute de silence, des jeunes qui étaient anti-Charlie, et me rendre compte, après une journée avec eux, que leurs paroles étaient éminemment plus sophistiquées que ce qu'on voulait dire, qu'ils avaient une compréhension de la laïcité, qu'ils avaient une compréhension de la République, qu'ils avaient une compréhension de leur place, de leur marginalisation. Comment on peut me demander tout d'un coup de développer de l'amour pour une mère qui ne m'en a jamais donné ? La manière dont ils arrivaient à complexifier leur relation avec la France, avec des mots d'adolescents de 14-15 ans, moi j'avais trouvé ça absolument magnifique. Et donc voilà, c'est vraiment un encouragement à sortir des mythes que l'on peut construire sur ces espaces-là, mais vraiment sans angélisme, hein, et à aller sur place, parler aux gens et voir comment on peut construire du dialogue entre espaces au lieu de voir le gouffre s'agrandir entre le centre et ses périphéries.
Ouais. En tout cas, tu l'as restitué avec beaucoup de délicatesse, cette parole, et je recommande effectivement de lire cet article, de lire aussi ton livre dans lequel tu observes en fait la façon dont les constructions culturelles de la banlieue se sont faites. Tu regardes voilà, le cinéma, la littérature, la télévision, les médias, comment on construit l'image de la banlieue. Et je voudrais quand même qu'on prenne un tout petit moment, parce que c'est intéressant, je pense, par rapport aussi à l'audience de l'émission, pour parler de la critique que tu formules du film de Céline Sciamma, Bande de filles. Moi, je tiens à préciser que c'est une. Enfin, il n'est pas question de jeter l'opprobre sur Céline Sciamma, qui est une réalisatrice que j'adore et qui a vraiment, je crois, beaucoup fait bouger les lignes avec Portrait de la jeune fille en feu. Néanmoins, avec Bande de filles, elle a fait quelque chose qui mérite d'être critiqué sur le plan politique.
Absolument. Alors, en fait. J'ai toujours voulu faire mon film, Marianne Noir, et après la fin de mes études doctorales, j'ai tout de suite trouvé un emploi comme MCF, et dans la liste des choses qu'on me demandait pour un jour avoir ma promotion, mais il n'y avait pas de film. Donc quand même, l'université reste encore un endroit assez classique, il fallait des articles, un livre, etc. Donc je n'avais pas le temps pour un film. Et puis 2 ans après mon doctorat, le 24 octobre 2014, je me suis lancée pour faire ce film. Et c'est en fait le jour où Bande de filles est sortie. J'ai été dans mon bureau aux États-Unis. Le film venait de sortir. Et il faut comprendre que moi, j'avais vu la bande-annonce du film l'été. Et c'était, il y avait beaucoup d'espoir. Je me rappelle avoir été un peu déçue quand j'ai su que c'était une réalisatrice blanche qui allait faire le premier film à gros budget comme ça, avec un casting presque exclusivement noir, et qui parlait de banlieue avec... Alors, on savait que ça allait toucher un peu à des sujets sensibles, l'islam, etc. Et puis, je me rappelle, quand j'ai su que c'était Céline Sciamma, yes. J'ai beaucoup travaillé sur elle quand j'étais en master, et je me dis, si une personne en France sait parler de la différence, que ce soit la différence sexuelle, de genre, sociale, c'est elle. Et puis après, c'est pas grave, si c'est pas une femme noire qui le fait, elle va bien s'en sortir. Et je me rappelle avoir vu le trailer, et cette vision magnifique de ces femmes sur le parvis de la Défense, de ces filles, et vraiment, on a attendu le film. À l'époque, ça fait rire les gens quand je le dis, mais c'était un peu comme notre Wakanda. Il allait sortir. Donc moi, j'étais aux États-Unis quand le film est sorti, et puis mes cousines sont allées le voir en groupe, et elles sont sorties, elles étaient... les plus petites avaient 14-15 ans, elles étaient complètement dégoûtées. Que voilà, on avait l'impression que c'était toujours les mêmes stéréotypes qui étaient recyclés, des personnages qui n'avaient aucune profondeur, qui étaient des personnages en carton-pâte, qui tenaient par ce qu'on savait d'eux, grâce au journal du Trésor de TF1, ce qu'on savait d'eux grâce à ce que le Figaro nous en disait, ce qu'on savait d'eux. Donc, il y a la jeune fille sage qui va devoir s'affirmer en se battant, qui devient, on ne sait pas trop, prostituée, dealer de drogue. Il y a le grand frère naturellement violent. On ne sait pas pourquoi il est violent. Il n'a aucune épaisseur. Mais on n'a pas besoin de savoir pourquoi il est violent. C'est un grand frère. C'est un grand frère noir, c'est un grand frère noir musulman, c'est un grand frère noir musulman de banlieue, donc on n'a pas besoin de savoir. Bien sûr, il y a la mère qui est complètement dans un mutisme, qui est complètement écrasée par le poids de ce qui lui arrive en France. Il n'y a aucun contact avec la fille, on ne sait pas ce qui se passe. Et bien sûr, normal, c'est une famille noire musulmane de banlieue, il n'y a pas de père, le père est parti. Donc, cette espèce d'impossibilité de toucher le cœur de son sujet, parce qu'elle ne savait pas de... Et donc moi, j'ai été vraiment très touchée en voyant ce film. Le film m'a touchée. Esthétiquement, c'était un très bel objet, mais qui était vide, qui ne disait rien, qui n'avait été dit par d'autres films du genre avant. Et ce qui a été pour moi encore plus violent, ça a été l'accueil critique et l'accueil institutionnel d'un film qui... Je voyage beaucoup, et ça a été comme ça pendant un an. J'allais au Japon, je vais aux États-Unis, je vais en France, et on me dit « Oh, pas en France, mais en Allemagne, ou « Tu as vu le film ?» Il est devenu le film sur la fille noire de banlieue. Donc, le film qui devait me définir. Et donc, pour moi, ça a été une addition d'oppression. Ce film qui, moi, je n'ai rien contre. Comme je dis, esthétiquement, c'était un bel objet, mais qui ne disait rien, qui renforçait des stéréotypes, tous les stéréotypes qui existaient. Les filles noires de banlieue sont sauvages. Elles ne s'en sortent qu'en se battant. Et puis, la fin du film, moi, qu'est-ce qui se passe? À la fin, elle sonne, on lui demande... Elle sonne chez elle parce qu'elle a tellement tourné, elle ne sait plus quoi faire de sa vie. Elle sonne chez elle, on lui dit c'est qui, elle ne sait pas qui, elle ne sait pas qui elle est, moi je ne sais plus qui elle est, tout le monde est perdu. Donc ça a été d'une... Et donc ce que j'ai fait, c'est de prendre un an et demi d'articles de la critique sur le film et de voir à quel point l'accueil critique, donc le film c'était un objet, mais l'accueil critique du film... renforcer encore tous les stéréotypes, la manière dont on parlait de ces filles, le vocabulaire animalier, le vocabulaire colonialiste. Alors, on a l'impression que la caméra nous embarque dans c'est une caravelle qui nous embarque. Et donc, tout ce vocabulaire du colonialisme, de se dire, mais on retourne encore dans de l'ailleurs. Et en sortant de la salle de cinéma, ben, on va revenir à sa vraie vie normale à Paris ou à sa vraie vie normale à Lyon.
Ce que je trouve vraiment intéressant dans l'analyse que tu en fais dans ton livre, et voilà, je voulais qu'on en parle rapidement parce que c'est vrai que je trouve qu'on est vraiment dans les questions qui animent les auditrices de La Poudre. Et je me demande si Céline Sciamma elle-même n'a pas été prise dans l'espèce de nécessité aussi de montrer patte universaliste, et que dans toutes ses interviews, elle s'est un petit peu fourvoyée à répéter sans cesse que c'était une histoire universelle, que ce n'était pas une histoire de banlieue, qu'elle ne voulait pas parler de femmes noires, etc. Et en fait, elle a dépolitisé le propos. Et je pense que, enfin voilà, je trouve que c'est vraiment très intéressant, surtout à la lumière de ce qu'elle a fait derrière. Je me demande d'ailleurs si...
Absolument, mais devant et derrière. Moi, par exemple, il y a une phrase qui m'avait vraiment, vraiment touchée. C'était à Cannes lorsqu'elle dit « Ces femmes, ces filles sont des pages blanches », parce qu'on lui posait la question de sa positionnalité en tant que réalisatrice blanche de classe, de sa classe. Comment est-ce qu'elle peut parler de ces corps-là? Et elle dit, mais c'est ma liberté d'artiste de le faire. Et à partir de là, moi, je, en tant qu'artiste, je peux projeter sur ces corps-là que je considère comme des pages blanches et que je remplis à ma guise et suivant mon désir d'artiste. Et le corps noir dans l'Occident n'est pas une page blanche. Et on revient encore à cette idée de l'universalisme, à l'idée que voilà, on est dans une... espèce de tabula rasa et tout le monde part du même point, et on le sait, et tant qu'on ne pourra pas déminer la charge qui pèse sur le corps noir, de dire qu'on ne peut pas, elle ne peut pas dire par exemple, comme elle l'a dit dans des entretiens, que cette héroïne Mariam, elle est aussi universelle et qu'on pourrait lui mettre un corset, qu'elle serait aussi universelle qu'une héroïne du 15e siècle ou qu'une, je ne sais pas, une aristo du 17e, ce n'est pas possible. Il n'y a pas la même charge. Les corps ne viennent pas avec la même histoire, la même... Donc voilà, ce n'est pas possible de les traiter comme une page blanche. Le corps noir en Occident n'est pas une page blanche.
Cette discussion que tu rapportes, ça me rappelle aussi la discussion qui a été créée, que tu as suscitée autour de cette fresque qui se situe dans le métro Assemblée nationale, sur laquelle tu es tombée un matin. Je pense que tu venais d'ailleurs représenter Marianne Noir à l'Assemblée. Donc c'est un artiste qui a réalisé une mosaïque qui est censée représenter, commémorer l'abolition de l'esclavage. Et il y a des personnages noirs qui sont représentés d'une façon, on peut difficilement imaginer plus raciste. En fait, on est vraiment dans l'imaginaire banania, enfin, si je peux me permettre de faire cette comparaison. Absolument. Et toi, donc, tu as décidé d'alerter sur la présence de cette fresque raciste, en acceptant d'ailleurs le fait que, OK, elle date de 91, peut-être qu'à l'époque, on n'avait pas assez d'outils pour comprendre que ce n'était pas possible de faire ce dessin-là. Aujourd'hui, on est en 2020, attaquons-nous à ce problème. Et les gens te répondent gentiment que absolument pas, que c'est le droit de l'artiste de représenter les personnages noirs comme il le veut. Enfin, il n'y a pas une espèce de même licence artistique, en fait, qu'on essaye de trouver dans cet acte-là.
Alors, l'histoire de la fresque, c'est, C'est une chose absolument lunaire. Donc, cette fresque se trouve, en fait, dans l'Assemblée nationale.
Ah oui, je croyais que c'est dans le métro.
Elle devait être au métro. Et alors, on a décidé, ils ont eu peur qu'elle soit dégradée. Elle est dans l'Assemblée nationale. Et donc, moi, je la découvre. Je vous invite vraiment à aller la voir. C'est la fresque d'Irosa, D-I-R-O-S-A, à l'Assemblée nationale. Et là, j'arrive et je tombe sur deux grosses têtes avec des grosses lèvres extrêmement rouges. Et donc, je suis saisie de voir Banania à l'Assemblée et je suis encore plus saisie lorsque je m'approche et que je me rends compte que cette fresque, elle commémore l'abolition de l'esclavage. Donc, on ne parle pas de l'esclavage en France, on parle de l'abolition. Donc, ça, c'est déjà... Et je trouve intéressant voilà, que ce soit déjà une histoire qui soit tue et lorsqu'on peut la commémorer, qu'elle soit commémorée de cette façon. Donc, Julien et moi, nous écrivons une tribune pour demander son retrait. Ça, c'est important. Pas sa destruction, son retrait. Parce que je pense que cet objet doit être dans un musée. C'est un objet pédagogique. C'est un objet qui devra nous dire et qui devra dire à ses enfants comment il a atterri à l'Assemblée nationale et a pu y rester pendant 28 ans. Donc, on va dire que cet objet-là est un objet raciste. C'est Yabon Banania, Tintin au Congo, à l'Assemblée nationale, et en plus pour célébrer l'abolition de l'esclavage. Et on va avoir vraiment un front, mais absolument total, organisé de l'extrême gauche à la droite, un front médiatique, politique, qui va nous tomber dessus pendant près de 10 jours, et on les entendra toutes. Alors, cette fresque ne peut pas être raciste, elle commémore l'abolition de l'esclavage. Nous sommes trop sensibles, nous ne comprenons rien à l'ironie, à la satire. C'est de l'ironie, c'est de la satire. Et pour revenir à ta question, le gros bloc qui va nous être opposé, ça va être le problème de la liberté, donc les valeurs de la République, l'universalisme et la liberté d'expression, la liberté de l'artiste. Et moi, j'ai une chose à répondre à ça par rapport à cette question, la licence de la liberté de l'artiste qui s'est sentie offensée parce que on nous a dit que voilà, il avait travaillé avec des artistes, il ne peut pas être raciste, il a donné des sacs de riz en Éthiopie, il a travaillé avec des artistes africains en Afrique et des artistes caribéens à Miami, etc. Et moi, je dis, mais tout ça, pour moi, ce n'est pas important parce que la question qui se pose aujourd'hui de cette licence artistique qui arrive à effacer tout et à écraser tout sur son passage, c'est et qu'est-ce qu'on fait de la mémoire? Qu'est-ce qu'on fait de la manière dont aujourd'hui la France a un objet raciste pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Qu'est-ce que ça dit sur nous? Qu'est-ce que ça dit de la manière dont... Et je posais la question à l'époque à Guillaume Hernière, à France Culture, qu'est-ce que l'ironie ou la licence artistique viennent faire dans la commémoration d'un crime contre l'humanité? Nous sommes en train de réfléchir à la manière dont il faudra commémorer une stèle, quel type de mémoire, quel type de monument pour les victimes du 13 novembre, dont deux très bons amis à moi. Je ne peux pas imaginer une fresque où on voit deux jeunes s'amuser et puis voilà, ils ont deux balles, deux impacts de balles dans le corps et dire « Ah ouais, mais le Bataclan, ça bombe, c'est de l'ironie ». Qu'est-ce que l'ironie, la satire, la licence artistique viennent faire dans la commémoration d'un crime contre l'humanité? Et c'est possible parce que c'est l'esclavage. C'est possible parce que cette mémoire-là, on ne veut pas en parler, on ne veut pas la faire sienne et on ne la respecte pas. Donc, ça a été une année très, très dure pour Julien et pour moi. Mais je n'aime pas le mot combat, ce n'est même pas un combat. Pour moi, c'est une évidence. Cette fresque, elle va partir un jour. Je ne veux pas qu'elle soit détruite parce qu'il va falloir qu'on m'explique comment l'artiste a pu la créer, comment elle a pu être accrochée à l'Assemblée nationale, un temple républicain, y rester pendant 29 ans sans défriser personne. Et quand nous, on soulève la question de sa présence-là, ben c'est nous, les racistes, on m'a traité de raciste, d'antiraciste, de folle, de vendu à l'Amérique, on a tout entendu.
Dans les médias, surtout, ce que j'ai noté, c'est qu'en fait, t'es quand même, t'es chercheuse, t'es professeure d'université, t'es enseignante, t'es spécialiste en histoire, en littérature, et en fait, on te présente comme militante. C'est extraordinaire, on t'est complètement dépossédée de tes savoirs, de ton expertise, de la position depuis laquelle tu édictes ce point de vue, et j'imagine que ça a dû être extrêmement usant. Et d'ailleurs, ça m'amène tout de suite à la question que j'avais envie de te poser parce qu'on approche de la fin de la rencontre et je voudrais qu'on ait quelques minutes pour poser quelques questions du public. Est-ce que parfois, même, tu es fatiguée?
On l'est tous, heureusement. On l'est tous et je trouve que c'est bien qu'on puisse... il y a 2 jours, j'étais extrêmement fatiguée, très fatiguée. Et Et j'ai eu une longue conversation avec Kautar Archi, qui m'a fait rigoler, mais rigoler, et on est reparti. Et puis l'après-midi, j'ai vu Rokeya qui a posté un truc qui était vachement inspirant. Ben, ça m'a fait repartir. Mais oui, je suis fatiguée et c'est normal. C'est normal de se dire fatiguée. On est face à des choses qui sont inhumaines. On est face à des choses qui sont anormales. Et pour peu qu'on ait un brin de normalité en soi, ben, on est. Donc oui, je suis fatiguée. Mais voilà, j'essaie de m'entourer de gens comme Bintou, comme Alice, comme Maboula. Ça, c'est important. Et puis, il y a des fois où j'ai envie d'être toute seule et je m'autorise à être toute seule. Je m'autorise à être triste quand il faut. Je m'autorise à ne pas être pas bien. Je m'autorise à me retirer des fois de tout ce bruit. Et puis, tout en gardant quand même. Et pour moi, je dis, ce n'est pas un combat. C'est une évidence que ce ne sera pas, ce ne sera peut-être pas de notre vivant, mais on ne peut pas léguer ce monde à nos nièces. À nos filles, on ne peut absolument pas. Donc voilà, on est le backlash, on est là, on ne lâche pas et on continue.
Ça évoque quoi pour toi, la poudre ?
Être visible ! Et vraiment, pour moi, c'est ce que j'essaie, j'en parle vraiment beaucoup à mes étudiantes quand ils me disent « Mais tu te prends tout ce truc, il y a Français de souche qui t'attaque, il y a le printemps républicain. » Et je dis « Mais être attaqué ?» Bah, ça veut dire que quand Macron ne veut pas parler de la race, ne veut pas, et à un moment, il est obligé voilà, de dire ah, « la République ne déboulonne pas ». Ben si, tonton Macron, la République, elle a déboulonné Pétain. Donc, être attaqué, c'est qu'il y a un moment où ton ennemi, le pire qu'il puisse te faire, c'est le silence. T'invisibiliser par cette mort symbolique qui est le fait de ne pas te prendre en compte. Donc, quand ton ennemi s'attaque à toi et vraiment sort, là, on voit, c'est l'artillerie lourde là, qui sort dans tous les sens, ça pète dans tous les sens, c'est qu'il voit ce que tu es. Et bien, ce qui se passe, c'est que voilà, nous, on est en train de faire péter la poudre. Et donc, ils sont là avec leur suie, ils ne savent pas trop quoi faire parce qu'ils ont de la suie partout sur leur joli costume et ça ne fait que commencer.
Merci infiniment, j'adore, c'est la meilleure réponse possible.
Merci à Mam Fatounyang d'être venue faire parler la poudre avec moi. Et merci au Carreau du Temple d'avoir permis à cette rencontre de se produire dans de si bonnes conditions, malgré les circonstances. La poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. La poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre Lit. Vous connaissez la suite, prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre.